RCF.
L'Hebdo Région, le magazine d'information proposé par les rédactions de vos radios chrétiennes en Pays de la Loire.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Le monde du football en deuil, l'Angevin Raymond Coppa est décédé. Ses obsèques avaient lieu mercredi dans le Maine-et-Loire, un territoire auquel le Ballon d'Or 1958 était profondément attaché. Le Conseil régional des Pays de la Loire a développé, lui, ces derniers jours, son fameux plan d'accès à la santé pour tous, une promesse de campagne de Bruno Retailleau. Au total, 10 millions d'euros vont être engagés sur 4 ans. Objectif, renforcer l'offre de soins dans les zones en tension. Pour la rencontre de la semaine, nous partirons en Mayenne. À l'occasion de la journée de la femme mercredi, Samuel Pecot s'est intéressé à la première Mayennaise élue maire dans le département. C'était en 1947, juste après l'obtention du droit de vote par les femmes. La pause spirituelle sera, elle, consacrée à la fraternité Sarthe-Orient, une association mancelle qui œuvre depuis plusieurs années maintenant en faveur des chrétiens persécutés, notamment en Syrie. Et puis enfin, dans notre rubrique En route vers les présidentielles, vous entendrez cette semaine un conducteur de train à l'occasion de faire le point sur les attentes des cheminots concernant le prochain gouvernement. Voilà pour ce qui vous attend dans cette hebdo région présentée par la rédaction de RCF Anjou en collaboration avec les autres radios chrétiennes des Pays de la Loire.
L'Hebdo Région, l'actu de la semaine.
Il était donc l'un des plus grands footballeurs que la France ait connu. Raymond Coppa est décédé il y a une semaine à l'âge de 85 ans. Ses obsèques avaient lieu mercredi à Angers, une ville où il vivait une partie de l'année, une ville dans laquelle il avait signé son premier contrat professionnel. Je vous propose d'écouter notre reportage réalisé sur place, Maria Goyer.
Une heure avant la cérémonie, des milliers de personnes sont déjà amassées sur le parvis de la cathédrale d'Angers. L'arrêté municipal interdisant de circuler et de stationner dans le quartier historique n'a pas démotivé ces Angevins venus rendre un dernier hommage à cette idole du ballon rond. Gilles, lui, tenait à être présent.
Je suis enseignant et j'ai eu dans ma classe la petite fille de Raymond Coppa. Ça, c'est la première raison. Donc j'ai quelques liens avec cette famille du fait de cette relation. Et puis la seconde, c'est que j'ai pratiqué le football pendant très longues années. Mon premier ballon, il était estampillé Raymond Coppa. Donc j'avais 6 ans à l'époque. Mais c'est un grand monsieur du foot, en tout cas.
Un grand monsieur du foot que Jean-Paul a même eu l'honneur d'affronter sur un terrain. C'était dans le cadre d'un match amateur il y a 30 ans environ.
Sur un terrain, c'était pas un cadeau. Non, tout le monde gossait, je suis pour le premier à inventer. En dehors du terrain, c'était un mec charmant, mais sur le terrain, il était très dur. Même avec ses coéquipiers, il fallait y mettre le ballon où monsieur voulait.
Une exigence digne des sportifs de haut niveau qui aura mené Raymond Coppa du SCO d'Angers au grand Real de Madrid, en passant par l'équipe de France. Son acolyte de l'époque, Juste Fontaine, présent lui aussi à Angers, se remémore l'extraordinaire joueur qu'il était.
C'était la première vedette française du football. Il était complet, il savait dribbler, donner des passes décisives et marquer des buts en plus. Donc on ne peut pas demander plus.
C'était un ami ?
Plus qu'un ami. Hein.
Plus qu'un ami, une véritable légende qui devrait prochainement donner son nom au stade de football du SCO d'Angers.
En effet, après en avoir discuté avec la famille du défunt, le maire d'Angers, Christophe Béchu, a proposé de rebaptiser le stade Raymond Coppa. La décision fera l'objet d'un vote au prochain conseil municipal à la fin du mois. Marc Boucher, vous nous avez rejoint en studio, bonjour.
Bonjour Bastien, bonjour à tous.
Alors, on ne l'a pas mentionné Marc, mais Raymond Coppa était d'origine polonaise, d'où son nom complet, Kopaszewski. Alors finalement, quelles étaient ses attaches profondes avec notre territoire et plus particulièrement avec la ville d'Angers ?
Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Raymond Coppa n'est pas né à Angers. Non, il est originaire de Neuilly-Mines, dans le Pas-de-Calais. Il signe sa première licence de football dans le club de la commune à 11 ans, puis se fait rapidement remarquer par son aisance technique, balle au pied. Il terminera d'ailleurs deuxième du concours national des jeunes footballeurs en 1949. Mais ensuite, alors qu'il espère intégrer l'équipe du Stade de Reims, tout ne se passe pas exactement comme il l'espérait. Écoutez son témoignage, c'était en 2009, il se confiait à l'époque à Brice Charrier.
J'ai eu la chance au départ qu'un club comme le SCO d'Angers se manifeste. J'étais considéré dans le Pas-de-Calais, à Neuilly-Mines, où je jouais, comme un des grands espoirs. Et finalement, aucun club professionnel s'est manifesté. Et finalement, j'ai la chance, effectivement, d'avoir le SCO d'Angers qui fait appel à moi. Grâce au SCO d'Angers, mais aussi à un homme qui était à l'époque l'entraîneur du SCO d'Angers, Camille Cotin, qui lui, effectivement, s'est occupé des jeunes qui sont arrivés tous en même temps. temps que moi. C'était l'équipe Biberon à l'époque. Et un grand merci à cet homme. Votre période au SCO, quels souvenirs vous en gardez?
Ça n'a pas été des saisons faciles, parce que cette équipe du SCO d'Angers, c'était les Biberons, oui, de joueurs de 17-18 ans, mais il y avait aussi les anciens qui étaient en fin de parcours. On a eu des résultats très, très, très moyens.
L'aventure entre le SCO d'Angers et Raymond Coppa ne durera que 2 ans, 60 matchs au total. En 1950, malgré une décevante 14e place en championnat, le petit meneur de jeu terminera meilleur buteur du club. Mais ses ambitions sont plus élevées. Raymond Coppa veut jouer dans les meilleures équipes d'Europe. C'est ainsi que lors d'une rencontre amicale entre le SCO et Reims, il se fait repérer par les dirigeants rémois. Il signe alors dans le club de son cœur en 1951, remporte le championnat de France, élite à plusieurs reprises, puis s'en va au Real de Madrid, club avec lequel il remportera 3 Coupes d'Europe et qui était également représenté mercredi à son enterrement par la présence de son président actuel, Florentino Pérez.
Oui, et après sa carrière professionnelle, Marc Raymond Coppa est retourné à Angers. Il a même continué de jouer au football, cette fois en amateur.
Il a continué longtemps d'écumer les terrains de football du Maine-et-Loire, puisque Raymond Coppa a pratiqué ce sport dans le petit club de la NDC jusqu'à l'âge de 70 ans. Ces dernières années, il partageait sa vie entre la Corse et l'Anjou, Angers, la ville où il a connu sa femme Christiane, avec laquelle il s'est marié en la cathédrale Saint-Maurice en 1953.
Merci Marc. Et puis pour terminer, on rappellera que Raymond Coppa a également joué 10 ans pour l'équipe de France, des Bleus avec qui il a terminé 3e du mondial 1958 en Suède, 1958, l'année où il a d'ailleurs remporté le Ballon d'Or, la plus prestigieuse des récompenses pour un footballeur. Autre grand champion disparu cette semaine, le pilote manceau Anthony De Hall, spécialiste de l'endurance. Il a été victime d'une grave chute jeudi sur le circuit Nogaro dans le Gers. Touché au cervical, il n'a pas survécu. L'accident s'est produit lors d'essais privés. Le monde du sport mécanique est donc sous le choc. Anthony De Hall avait remporté plusieurs fois le Bol d'Or et les 24 heures moto. Extradé de Suisse lundi, l'ex-membre du groupe islamique armé Merwan Benhamed a été présenté ce jeudi au juge Lavallois en vue de sa mise en examen. L'ancien terroriste du GIA s'était enfui le 8 septembre dernier d'Evron où il était assigné à résidence depuis le mois de décembre 2015. Ce jeudi, il a été présenté au magistrat Lavallois pour soustraction à des obligations d'assignation à résidence. Son procès se déroulera à Laval. Récidiviste, il encourt une peine de 6 ans de prison. Et puis ça a soufflé fort lundi, très fort, même à partir de 10h. Météo France a enregistré des rafales de vent jusqu'à 120 km/h, notamment dans le Maine-et-Loire. C'est du jamais vu depuis une quinzaine d'années dans ce département. La tempête Zeus a causé pas mal de dégâts. Les pompiers ont dû intervenir plus de 500 fois durant la journée. Chute d'arbres, quelques toitures abîmées et surtout beaucoup de coupures d'électricité. Au total, 39 000 foyers ont été privés de courant dans le Maine-et-Loire. 700 agents ont été mobilisés pour remédier à la situation.
L'Hebdo-Région, initiative.
C'est un fléau qui guette de nombreux territoires en France et les Pays de la Loire ne font pas exception. La pénurie de médecins en zone rurale et maintenant en zone urbaine n'est pas un problème nouveau. Cependant, il risque de s'accentuer d'année en année si des mesures ne sont pas prises rapidement. En Vendée, nous retrouvons Foulque Omahoni. Bonjour Foulque.
Bonjour Bastien, bonjour à toutes et à tous.
Bruno Retailleau, président du Conseil Régional, présente actuellement dans chaque département son fameux plan d'accès à la santé partout et pour tous.
En effet, Bastien, il était à La Roche-sur-Yon en Vendée vendredi dernier pour le présenter à la presse, en compagnie de celle qui en est la cheville ouvrière, Catherine de Roche. Elle est vice-présidente de la commission santé au Conseil régional et sénatrice du Maine-et-Loire. La région engagera donc 15 mesures et 10 millions d'euros sur 4 ans. Parmi ces mesures, soutenir l'innovation dans ce domaine, Catherine de Roche.
Nous souhaitons, nos régions, aux côtés de l'ARS et des professionnels de santé, pouvoir aider à l'amorçage de dispositifs innovants, que ce soit en matière d'organisation des soins, ça peut être les pratiques, les consultations avancées des spécialistes qui viennent dans les maisons de santé, ça peut être des unités mobiles, hein. On réfléchit également à des bus qui pourraient aller là où les territoires sont les plus fragiles avec des spécialistes ou des paramédicaux. Et puis il y a aussi tout ce qui touche à la télémédecine, ce qui nécessite aussi une bonne couverture numérique, une grande préoccupation aussi des élus locaux, de façon à pouvoir en effet pouvoir avoir des consultations par télémédecine, par exemple vis-à-vis des personnes âgées dans un EHPAD, entre médecins, spécialistes. Et donc nous serons à l'écoute des projets, des porteurs de projets.
Autre mesure qui se concrétise déjà en Vendée, soutenir l'investissement dans 35 nouvelles maisons de santé pluriprofessionnelles d'ici 2021.
Continuer à accompagner les territoires pour faire des maisons de santé pluriprofessionnelles qui ne sont pas obligatoirement en un seul lieu. Une maison de santé, ce n'est pas un bâtiment, ce ne sont pas des murs. Il faut que derrière, il y ait un vrai projet de santé entre les différents professionnels de santé du territoire, souvent à l'échelle d'une intercommunalité ou d'une commune nouvelle, par exemple, puisqu'il y en a beaucoup dans la région, et de se dire, il y a un projet de santé, on fait travailler ensemble tous les professionnels de santé avec les élus, on voit quels sont les besoins et en découle des besoins de locaux, soit sur un site, soit sur plusieurs sites, et nous allons donc accompagner financièrement ces constructions de locaux.
Deux projets ont déjà été soutenus par la région en 2016 en Vendée, la maison de santé pluriprofessionnelle du quartier des Forges à La Roche-sur-Yon et celle de Roche-Servière. 6 autres projets en Vendée sont à l'étude et enfin, parmi ces 15 mesures, une dernière jugée comme la plus innovante par Bruno Retailleau, président de la région des Pays de la Loire, il nous la présente.
Peut-être que la plus novatrice, alors il y a la télémédecine bien sûr, non, la plus novatrice je pense que c'est des maisons pluridisciplinaires de santé universitaires. C'est-à-dire que là jusqu'à présent, grosso modo, on forme nos étudiants de médecine, nos internes uniquement dans les CHU, donc dans des villes. Donc quand ils apprennent leur métier dans la ville, ils ont envie de rester dans la ville, ils ne connaissent pas les autres territoires. Et là l'idée c'est qu'il y ait des chefs de clinique, et c'est-à-dire des médecins qui sont formés pour la recherche, qui puissent accompagner des jeunes médecins, des jeunes internes, qui feraient pour partie leurs études sur des sujets de recherche dans des maisons en dehors des grands hôpitaux publics et universitaires. Et ça permettra de développer toute une formation dans la profondeur de nos territoires. Les jeunes médecins, du coup, enfin les jeunes étudiants en médecine connaîtront beaucoup mieux nos territoires et je gage qu'au terme de leur formation, ils auront beaucoup moins d'appréhension à venir s'y implanter.
Un projet est donc en cours avec le CHU de Nantes pour développer la recherche en soins primaires dans les maisons de santé pluriprofessionnelles de Loire-Atlantique et de Vendée.
Et à noter que selon les élus régionaux, il faudra attendre au moins 4 ans pour voir les premiers effets de ce plan d'accès à la santé pour tous sur le territoire. Merci Foulk, à la semaine prochaine. Dans le reste de l'actualité, à Douai-la-Fontaine, près de Saumur, dans le Maine-et-Loire, les 3 rhinocéros du bioparc ont été placés sous haute surveillance. L'initiative a été prise par la direction après un récent fait divers. Mardi, des malfaiteurs se sont introduits dans le zoo de Thoiry, dans les Yvelines, pour tuer l'un de ces animaux âgé de seulement 5 ans. L'une de ses cornes a été sciée, son prix pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. En apprenant cette affaire, le directeur du site de Douai-la-Fontaine s'est dit choqué. Il a décidé de renforcer la sécurité des enclos de ces rhinocéros noirs, d'autant plus qu'une naissance est attendue pour cet été.
L'Hebdo-Région, rencontre avec...
Bonjour Samuel Péco.
Bonjour Bastien, bonjour à tous.
Nos auditeurs s'en sont sûrement rendus compte. Mercredi dernier, c'était la journée des droits des femmes. Et à cette occasion, Samuel, vous vous êtes intéressé au parcours d'une Mayennaise, pas n'importe laquelle, la première à avoir été élue maire dans le département. Alors un petit voyage dans le temps remonte en 1947 dans le village de Voutré. Cette femme, elle s'appelait Angèle Ligère.
Exactement Bastien. Il est d'ailleurs même possible que ça soit la première femme élue maire en France. On ne trouve pas de données à ce sujet. Et il faut se remettre dans le contexte de l'époque, on est dans l'immédiat après-guerre, les femmes venaient tout juste d'obtenir le droit de vote, et c'est donc dans ce contexte particulier que les Voutréens ont décidé d'élire Angèle Ligère à la tête de leur commune, un peu à la surprise générale, il faut bien le dire, comme nous l'explique l'historien local Jacques Cousin.
Oui, c'est d'autant plus étonnant qu'il y avait un réseau de résistance très important, et on aurait pu penser, lors de la première élection, que l'on aurait puisé pour les conseillers municipaux essentiellement parmi ce réseau-là, quoi, si vous voulez. Et c'est assez étonnant de retrouver effectivement une femme qui se présente.
Cette femme, c'est donc Angèle Ligère qui avait intégré le conseil municipal fin avril 45, avant même la fin officielle de la Seconde Guerre mondiale, période pendant laquelle sa propre maison avait été endommagée par des attaques allemandes.
Oui, elle a été élue dès qu'a été votée l'autorisation qui a été donnée aux femmes de voter. Avant la guerre 39-45, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Et dès la première élection, aussitôt après la guerre, Eh bien, Angèle Ligère a été effectivement élue d'abord comme conseillère municipale, puis ensuite, au moment où on a voté le bureau, eh bien ma foi, elle a été élue aussi adjointe. Et c'était quelque chose de tout à fait incroyable, parce que d'une part, les gens n'étaient pas du tout habitués à voir des femmes participer, disons, aux conseils municipaux, et ça a marqué la population.
Et si elle a réussi ainsi à rassembler les suffrages des Voutréens sur sa personne, c'est qu'Angèle Ligère connaissait chaque famille de Voutré, village où elle a fait toute sa carrière d'institutrice.
Voilà, elle a commencé sa carrière donc en 1913. Elle a passé ses 15 premiers jours dans un autre village de la Mayenne. Puis au bout de 15 jours, elle a été nommée à Voutré. Et elle est restée jusqu'à la fin de sa carrière, c'est-à-dire dans les années 60, en tant qu'institutrice, si vous voulez. Et elle était extrêmement proche de la population.
Connue de tous, toujours prête à soutenir les plus fragiles en tant que présidente de l'aide sociale dans ce village de Voutré, qu'elle a totalement transformé pendant ses 18 ans de mandat, de 1947 à 1965.
Elle s'est beaucoup préoccupée de la modernisation du village. Par exemple, l'électrification, le réseau d'électrification de la commune, on le lui doit. Jusque dans les années 50, il y avait pratiquement uniquement le bourg et puis quelques approches qui étaient électrifiées. Sinon, autrement, tout le reste, on s'éclairait encore à la bougie. Elle a œuvré également pour l'extension du réseau d'eau potable. Et enfin, elle a aussi œuvré énormément pour l'élargissement des chemins, c'est-à-dire faciliter la circulation des véhicules. Alors, on lui doit aussi les deux premiers lotissements de Voutré. Et puis, il ne faudrait pas oublier aussi qu'elle s'est préoccupée d'améliorer, si vous voulez, le football et le sport sur Voutré, en créant la première tribune autour du stade. Et c'est elle aussi qui a été à l'initiative du démarrage de la cantine. Et puis, dernière chose aussi, elle a aidé à construire la quatrième classe de l'école de garçons. C'était une femme de tête, si vous voulez.
Une femme de caractère, Angèle Ligère, qui a donc été la première femme élue maire en Mayenne. Et merci donc à Jacques Cousin, l'historien de Voutré, de nous en avoir parlé à l'occasion de la journée de la femme.
Et merci à vous, Samuel, d'avoir recueilli ces propos. Samuel Pécaud de Fidélité Mayenne, qu'on retrouvera bien sûr la semaine prochaine.
L'Hebdo-Région, pause spirituelle.
Et direction la Sarthe à présent, nous sommes avec Aubery Métro de RCF Le Mans. Bonjour Aubery.
Bonjour Bastien.
Alors cette semaine, vous mettez en avant la générosité, focus sur des chrétiens solidaires.
Eh oui, il y a 4 ans, une poignée de paroissiens du Mans est frappée en voyant les images venues d'Irak et de Syrie. Les chrétiens d'Orient y sont persécutés. Alors en soutien, ils créent une association, la Fraternité Chrétienne Sarthe-Orient, avec le père Christophe Lesourd, le prêtre de la cathédrale du Mans.
Et au bout d'un an, on s'est dit, mais pour pouvoir avancer, être efficient, il faut absolument que nous puissions créer un certain nombre de jumelage dans le diocèse du Mans. Et c'est ainsi qu'il y a eu un premier jumelage qui est né avec les paroisses de la cathédrale de la Couture, avec la communauté de Marillane, une communauté monastique dont le charisme premier est d'être en dialogue avec les musulmans. Et cette communauté est au service d'une ville qui s'appelle Cariatène. Et puis ensuite, il y a eu d'autres jumelages qui se sont mis en route, Saint-Aldric avec Saint-Dimitri. Il y a également l'ensemble paroissial de Sablé avec la Notre-Dame du Bonheur à Alep. Et actuellement, il y a aussi l'ensemble paroissial de Lassus qui est en train de se lancer dans un lien très particulier avec un évêché au Liban pour être solidaire de familles déplacées.
Et depuis, les membres de la fraternité récoltent des dons. Ils ont d'ailleurs déjà envoyé 170 000 euros en Syrie.
Alors 170 000 euros, c'est beaucoup. Comment font-ils concrètement pour récolter tout cet argent ?
Eh bien, les bénévoles de la Fraternité Chrétienne Sarthe-Orient multiplient les actions pour récolter des dons. Par exemple, là pour Pâques, eh bien, ils vont vendre des poissons en chocolat dans les paroisses. Brigitte Cosigou est chargée de la partie financière de la fraternité.
Les dons qui nous arrivent sont envoyés ou à Marillane ou à Alep, aussi bien à Notre-Dame du Bonheur ou à Saint-Dimitri. Les dons servent pour la nourriture, pour les médicaments, beaucoup de soins pour l'eau, l'électricité, le chauffage. Ce qui est très bien pour nous, c'est qu'à chaque fois qu'un don est envoyé par notre trésorier, on a dans les jours à suivre un accusé de réception par mail, par courrier ou par téléphone, des pères qui reçoivent ces dons et qui nous disent toujours avec beaucoup de chaleur leurs remerciements et bien sûr à quoi ça sert.
Alors ça, c'est pour la partie qui se passe au Moyen-Orient, mais les bénévoles accompagnent aussi, Bastien, les réfugiés une fois qu'ils sont en France.
Et de quelle manière alors ?
Eh bien déjà par des rencontres qui ont lieu une fois par semaine au Mans, entre les familles sartoises et celles moyen-orientales. Et puis il y a aussi cet accompagnement pratique au quotidien auquel participe Maroun Kourifegali.
Essentiellement, donc, l'apprentissage du français, même s'il y a des services sociaux, hein, comme la GAFI qui assure... Mais ils nous disent que c'est pas suffisant pour eux. Donc ils ont besoin de consolider tous ces acquis qu'ils ont par ailleurs. Les accompagnements aussi, tout simplement pour assurer une traduction auprès d'un médecin. Ça nous arrive souvent. Donc on est 2-3 Libanais et Syriens, donc bilingues. On assure ces accompagnements. Des fois pour aussi traduire une lettre qu'ils ont reçue. Alors pour les enfants aussi, il y a beaucoup de demandes pour un soutien scolaire. Parce que les parents qui ne maîtrisent pas le français ne peuvent pas aider aux devoirs et aux leçons.
Et d'ailleurs, la fraternité s'apprête à venir en aide à 2 nouvelles familles syriennes qui doivent venir s'installer à La Ferté-Bernard, c'est à l'est de la Sarthe.
Et il faut préciser au Burri que la fraternité organise aussi d'autres événements pour sensibiliser le grand public à la situation des chrétiens d'Orient.
Oui, avec des rencontres par exemple, notamment le week-end prochain, celui du 18 mars, le père Jacques Mourad sera au Mans. Il vit au Kurdistan irakien et il va témoigner dimanche lors d'une messe célébrée par Monseigneur Le Sault, l'évêque du Mans. Avant de donner une conférence, ce sera le lundi soir à la maison diocésaine au 26 rue Albert Ménian au Mans, si vous êtes intéressé.
Voilà, plein de belles initiatives. Merci Aubery pour toutes ces précisions. Vous ne bougez surtout pas, on vous retrouve tout de suite pour la dernière partie de ce magazine.
En route vers les présidentielles.
Et nous restons donc dans la Sarthe pour notre rubrique sur les présidentielles. L'échéance arrive à grands pas et cette semaine, Aubery, vous vous êtes intéressé aux attentes des cheminots.
Et oui, ils sont parfois en grève, souvent pris pour cible quand il y a du retard sur les trains et surtout de plus en plus contraints à faire des économies. Les conducteurs de train ont vu leurs conditions de travail se dégrader depuis quelques années. C'est en tout cas l'avis de Julien Paléja qui achemine chaque jour des dizaines de voyageurs en Sarthe.
Évidemment, il y a l'enjeu sur l'emploi puisque aujourd'hui, il y a près de 24 000 emplois qui ont été supprimés depuis 10 ans. Et en 2017, on nous annonce encore 1800 suppressions. Donc l'emploi est vraiment une priorité. On pense qu'il faut adapter une tarification du transport ferroviaire pour que ce soit à la hauteur des enjeux écologiques, pour favoriser le transport ferroviaire et puis permettre une meilleure accessibilité à tous les usagers. On souhaite améliorer la ponctualité des trains de manière à être... Mais ça, bien sûr, c'est en lien direct avec l'emploi, puisqu'aujourd'hui, sur toutes les régions de France, et particulièrement la nôtre, on est en pénurie de conducteurs, mais également de personnel... qualifiés dans les technicentres pour permettre l'entretien des engins moteurs, des trains. Et donc, du coup, ça met des retards et des trains supprimés au bout du jour.
Et bon, et à moins de 50 jours du premier tour des présidentielles, qu'est-ce que Julien Paléja attend finalement du prochain gouvernement ?
Eh bien, sans surprise, il attend des garanties sur l'avenir de la SNCF.
On veut une entreprise unifiée publique pour arrêter la casse de l'emploi, une réelle intermodalité entre le ferroviaire et la route. Des cars, oui, on en veut bien. Mais pour acheminer les usagers dans les zones non couvertes, les déserts en fait, par le ferroviaire, en direction des lignes régulières et non pas en parallèle, offrant juste une concurrence déloyale entre le train et la route. Voilà ce que je voulais dire sur mes attentes du prochain gouvernement.
Et ce sont des revendications que les cheminots portent aussi au niveau régional avec le projet de privatisation des TER qui a été évoqué par la majorité, les Républicains.
Et comme chaque semaine, faisons un peu de politique fiction. Quelle serait la première mesure de notre conducteur de train s'il était élu président de la République ?
Alors Bastien, cette semaine on va tricher un peu parce que Julien Paléja en a deux, une qui concernerait tous les citoyens et l'autre qui serait plus particulière pour les cheminots.
Évidemment c'est l'augmentation générale des salaires, puis ça se rejoint aussi côté cheminots puisqu'on a plusieurs années de gel de salaire. Et je pense que c'est une volonté vraiment de tous les salariés en France. Augmentation donc des salaires entraînant augmentation des minima sociaux et le développement du système social. Ça permettra en plus une relance économique et luttera aussi contre le chômage, tout ça. Donc c'est au moins primordial. Et niveau ferroviaire, c'est clairement le désentêtement de l'entreprise publique SNCF. Pourquoi ? Parce que ça permettra à la SNCF de s'autofinancer. En fait, aujourd'hui, les bénéfices d'exploitation le permettraient. C'est juste que les intérêts de la dette prennent une part trop importante des recettes de l'entreprise et donc du coup entraînent un cercle vicieux, quoi. Et donc ça ne permet pas l'autofinancement aujourd'hui, quoi. Voilà, donc les deux points que je pourrais aborder en tant que président.
Voilà pour ce témoignage recueilli par Aubery Métro. Merci Aubery. La semaine prochaine, notre rubrique présidentielle sera consacrée à la sécurité. C'est donc la fin de cette hebdo-région. Votre magazine d'actualité vous était présenté par la rédaction de RCF Anjou en partenariat avec les autres radios chrétiennes des Pays de la Loire. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Même jour, même heure. Merci encore de votre fidélité.